parlé de moi, que tu as écouté, que tu étais fidèle. Alors je t'embrasse très fort, voilà, tu te reconnaîtras. Et on m'a dit des belles choses sur toi, donc je t'embrasse fort et merci, merci d'écouter en tous les cas cette émission. Voilà, chers amis, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Solal. Et là, on va vous laisser avec Rayantologie, là, tout de suite, et tout à l'heure, des redifs, tout ça, toute la nuit. Et demain, 7h, 10h, la matinale avec Kim, 13h, 14h, eh bien, vous allez me retrouver, moi, vous me retrouverez demain, pour vos petites annonces, d'accord? Allez, ce sera notre premier rendez-vous demain, les petites annonces, 13h, 14h. À demain, je vous aime. Merci, merci en tous les cas pour cette belle soirée. Merci à Linda, à Saleha, à Nadia, à Faiza, Sophia, Alpha, Mamoudou, Radia, Daniel, Cédric, Nassera, Halima, Bachir, Fadila, Fatima et Karima. Merci, merci pour vos bons vœux. Vraiment, je vous aime, je vous adore. Voilà, tout simplement. Rabbi Inch'Allah. Et je dis comme tout ce que vous aimez, vraiment, qui protège les êtres chers. Voilà, je vous dis à demain. Allez, à demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la redile. La redile, la redile.
19h, 20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, c'est parti pour démarrer cette toute nouvelle semaine. Vous le savez, hein, les informés, on commente, on décrypte et on analyse l'actualité. Ça mérite une belle petite clochette, tout ça. Vous savez quoi? Pourquoi? Parce que l'actualité est dense et on va la commenter aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons nous intéresser. Figurez-vous, la sitcom. Vous vous souvenez de H? Vous vous souvenez de H? Oui, vous vous souvenez de H?
Oui, H. Très connu, H.
Qui a cartonné. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fan. Ouais. Fan. Je regardais tout le temps H. Ça m'a rendu ouf. Et ben, vous savez quoi? Jamel Debbouze, Mohamed Hamidi et Ramzy reviennent en force pour Terminal. Terminal, en faisant référence, évidemment, à l'aéroport. Alors, tout simplement, nous allons recevoir, justement, celui qu'on connaît très bien ici. Il est producteur, il est réalisateur, il est... souvenez-vous, il a fait toute une série de films qui ont eu de beaux succès. Et ben, il sera avec nous, Mohamed Hamidi, tout à l'heure, dans une poignée de minutes, juste après le sommaire, pour nous parler de Terminal. Ensuite, après, les débatteurs influenceurs s'empareront du micro. On reviendra, vous savez quoi, sur Gabriel Attal, qui a rencontré justement des ados, des jeunes. Et on s'arrêtera sur cette phrase. Ma mère m'a forcé, en faisant référence, un jeune homme qui n'est pas content du tout de se retrouver en internat éducatif. On en parlera tout à l'heure. Vous savez quoi, à Paris, eh bien, de plus en plus de touristes, notamment issus de l'Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne, se font happer, se font harceler parfois aussi. Et bien là, il y a une touriste marocaine qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a tellement fait le buzz que tout le monde ne parle que d'elle. Cette touriste marocaine, elle s'est fait cracher dessus et elle a décidé de porter plainte. Elle vient de Maroc, elle était en plein touriste. Elle est de passage et puis elle subit le racisme et le machisme. Tiens, deux en un, paf, clochette. Alors du coup, vous savez quoi? Tout le monde aujourd'hui, ce matin, ne parle que d'elle. Et ben, on en parlera. Que se passe-t-il en France? Douce France, où es-tu passé, jolie France? Clochette. Français, justement, et françaises de confession musulmane, bien installés. Ah, vous êtes de plus en plus nombreux, figurez-vous, on en a parlé sur cette antenne. De plus en plus nombreux qui songent à immigrer. Écoutez Rachida.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier.
Là, Rachida, je le kiffe. Paix à son âme. Grand monsieur. J'étais un grand fan de Rachida. Vous savez quoi? Merci Solal à la réalisation. Ces Français de confession musulmane qui veulent se barrer de la France. C'est, ils sont pas 1, 2, 3, 4. Non, on les compte par centaines. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça y est, ils ont fait leur projet. Beaucoup sont déjà partis. Voilà. Ont-ils raison ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, ils sont banquiers, fonctionnaires, professeurs, avocats, journalistes, producteurs. Tous, tous. Que se passe-t-il en France? Merci Rachida. On parlera aussi de Mélenchon. Lui aussi mérite une clochette. Jean-Luc Mélenchon. Ça lui a pas suffi d'ailleurs, Lille, où on a annulé la conférence. Alors peut-être que ce soir, on va annuler la conférence à Sciences Po. Il a dit, moi, Mélenchon, je lâche pas l'affaire. Vous allez voir, hein, à Sciences Po à Paris, je vais tout déchirer. Clochette. Michel Taubier vient ce soir avec son quad neuf. Oui, à 19h50 et son billet d'humeur. Allez, et 01 53 48 3000, vous savez quoi? C'est vous, au standard. Solal vous accueille avec grand plaisir. Comme tous les soirs, vous êtes très très nombreux. Hein. Merci, parce que vous savez quoi? Vous êtes grave nombreux. Hein. Moi, je sais qu'on en parle tout le temps, et ça, ça fait plaisir. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
Ah, le grand Mohamed Hamidi. Bonjour, Mohamed Hamidi.
Bonjour Adil, comment ça va?
Quel plaisir de vous entendre, mon cher Mohamed. Ça va, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Ça va, c'est du bien entendre Rachid Taha.
Ah, vous le kiffez aussi?
Ah, bah, bien sûr, Rachid, j'ai la chance de le connaître, c'est un grand monsieur.
Ouais, grand monsieur, je l'ai connu par qui, Mohamed Hamidi? Par notre ami Mohamed, qui est producteur aussi, un autre Mohamed qui était le manager de Faudel, et qui me l'a présenté. Je garde un excellent souvenir de Rachid Taha. Excellent souvenir, vraiment. Vous comprenez ça? Vous l'entendez, vous, Mohamed Hamidi, producteur du cinéma, réalisateur, le bras droit de Jamel Debbouze, justement. Vous l'entendez que ces Français de confession musulmane qui en ont marre de l'ambiance délétère en France et qui commencent à se barrer et à émigrer à l'étranger? Vous le comprenez, ça? C'est pas le sujet du tout.
Je veux
juste avoir votre point de vue.
Non, mais je l'entends, bien sûr, parce que quand on est né en France, comme moi en tout cas, et comme beaucoup de gens, ou pas né d'ailleurs, quand on vit en France et qu'on partage les valeurs de la France, on en a marre d'être traité comme des citoyens de seconde zone. Et effectivement, on n'a plus envie de supporter aujourd'hui qu'on ait du mal à trouver des appartements, qu'on ait du mal à trouver du boulot, qu'on ait du mal à monter des projets, quel que soit notre niveau. Hein. On voit que ce soit effectivement, des, comme vous le disiez, des financiers, des producteurs, des banquiers, il y a toujours un plafond de verre. Et bien sûr, ça existe. On va pas dire que ça n'existe pas. Ça existe pour nous, ça existe pour nos enfants. Et je comprends qu'il y ait des gens qui partent, mais moi, j'ai décidé de rester pour me battre.
Vous avez décidé de vous rester. Je suis un peu comme vous, moi. J'ai décidé aussi de rester pour me battre. Parce que le combat, comme le dit si bien Mohamed Ali, et voilà, il faut aller le chercher, il faut aller le gagner. C'est ça, ça vous fait sourire. On va parler de Terminal. Après le grand succès qui nous a bercé durant notre jeunesse, vous savez quoi, je veux faire référence au sitcom H avec Eric et Ramzy, Debbouze, Jamel Debbouze, bien sûr. Eh bien, Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi ont décidé de co-réaliser Terminal. Vous savez quoi, pour planter le décor, mon cher Mohamed Hamidi, vous savez quoi, je veux diffuser l'extrait de cette bande-annonce qui est diffusée ce soir à 21h à Canal+, ce soir, hein, le grand rendez-vous qui nous attend.
En clair
en plus. Allez vous jeter tous sur Canal ce soir à 21h. Vous allez faire le saut sur vraiment la sitcom qui vous attend. Je vous le dis, je suis pas en train de faire la promo, mais j'ai vu, moi, ça va déchirer, vous allez voir. Écoutez ça, la bande-annonce.
Bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément. Ce sniff de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée?
La tête à genoux, les fesses à plat ventre.
J'adore, Mohamed Hamidi, je vous jure, je kiffe, grave, vous, moi, quand même, Ramzy me tutorait, il dit, ouais, quelle position vous avez, je suis assise. Beau Terminal, ça promet quand même, hein, Mohamed Hamidi, hein.
C'est vrai.
Racontez-nous, comment c'est fait, cette folle, ah ouais, racontez-nous un peu.
Non, mais c'est vrai que Jamel, ça faisait longtemps, moi, ça fait très longtemps maintenant que je travaille avec Jamel, que j'écris avec Jamel, on a fait plein de choses, des films dont je suis venu parler chez vous, on est quelque part, la vache, jusqu'ici tout va bien, et puis les spectacles aussi, le Marrakech du Rire, mais Jamel, ça fait 15 ans qu'il me dit, moi, mon rêve, c'est de refaire une sitcom, et effectivement, c'était très dur à mettre en place, parce que c'est dur à monter, c'est dur à écrire, c'est dur de trouver une chaîne qui veut bien encore miser là-dessus, et là, il se trouve que Canal a mis le paquet et qu'on a commencé à travailler sur ce projet il y a 3-4 ans. Il y a une équipe d'auteurs qui a bossé sur un scénario. Ils ont décidé de mettre ça dans un terminal, un aéroport, ce qui est à mon avis une très bonne idée. Et moi, je suis rentré dans le projet avec Javel pour la réalisation. Et c'est vrai qu'on s'est mis aussi à écrire avec eux et on s'est beaucoup, beaucoup amusé à le faire. Et aujourd'hui, on est très heureux et très fiers de présenter ça à tout le monde.
25 ans après, Mohamed Hamedi. 25 ans après, 25 ans après âge quand même, un événement. Parce que vous renouez quelque part avec la sitcom, hein, 25 ans après, avec le public, enregistré et en public.
Ça va. De ce projet, moi, c'est juste ce qui est super pour moi, c'est que c'est pile au milieu de ce que j'aime faire. C'est-à-dire, je fais des films, mais je fais aussi du stand-up. Je veux dire, je fais aussi de la mise en scène. Et la sitcom, c'est pile au milieu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du texte, il y a des scènes, il y a des scénarios, il y a des caméras, il y a du montage, mais il y a aussi un public qui réagit en direct. Et ce que vous allez entendre ce soir, c'est les réactions du public qui était sur place, qui avait la chance d'être sur place. D'ailleurs, c'est une autre saison. Je vous encourage à venir dans le public. C'est extraordinaire comme expérience. Et ce qui est drôle, c'est que, et ce qui est à la fois très intéressant pour les comédiens comme pour nous à la réalisation, c'est que les réactions, on les a immédiatement. C'est-à-dire que les vannes, elles fonctionnent ou elles fonctionnent pas, et on réagit tout de suite, on réajuste. C'est quelque chose d'hyper vivant. Et tout le monde est grisé par cette ambiance, et ça donne le résultat que vous avez vu là. C'est-à-dire que je pense que c'est complètement différent d'une fiction classique.
C'est quoi, notre réalisateur, il est déjà conquis, Sol Alain. Il a 20 ans à peine. 20 ans. Il a 20 ans. Il est déjà conquis par, évidemment, Terminal. Alors, c'est des personnages, hein, complètement farfelus, ça va dans tous les sens, et en même temps, il y a une histoire, on raconte un peu ce qu'on a tous vécu quelque part dans les aéroports. C'est bien ça, Mohamed Hamedi.
Exactement, ouais, on a été chercher toutes les situations marrantes, farfelues, et surtout on a des personnages très forts. On a le commandant de bord qui est Jack Saidi, qui est joué par Ramzi, qui est un commandant de bord très très paternaliste, très gentil, mais en même temps un peu fou et un peu bordélique. On a sa copilote qui elle au contraire est très rigide, qui s'appelle Charlie, qui est joué par Bérangère MacNeil. On a après des PNC, c'est-à-dire des personnels navigants commerciaux. Donc on a aussi bien Brahim Boulel que Camille Chamou, que La Pote Gênante, que Tristan Lopin. Donc ça fait vraiment une variété de personnages hyper intéressants. Et surtout, on a aussi plein de guests. Jamel joue dans deux épisodes. On a aussi Cavnerade, on a aussi Mister V, on a aussi Camille Cotin, Manu Payet, bien sûr. Donc pour nous, c'était un super terrain de jeu, vraiment, et on s'est vraiment beaucoup amusé à le faire.
Beaucoup, le public se marre, tout le monde se marre, effectivement. Combien d'épisodes, mon cher Mohamed Hamedi, vous, le co-réalisateur avec Jamel Debbouze, de cette sitcom 20 sur Canal Plus ce soir, à ne pas manquer en clair à 21h, hein?
Exactement, bah, il y a 12 épisodes pour l'instant, 12 épisodes de 26 minutes qui passeront par deux sur Canal. Alors tout n'est pas la première soirée, le premier épisode est en clair, mais c'est l'épisode qui est un peu l'épisode fondateur, qui est avec Jamel d'ailleurs, et après ce sera par deux tous les lundis soirs à 21h sur Canal.
Comment vous faites d'ailleurs pour avoir une recette qui était celle de H? On se souvient, hein, la prestigieuse, H. Aujourd'hui, vous avez un peu cultivé, quand je regarde un peu les différents extraits, vous avez cultivé la même énergie, la même ambiance.
Bah, c'est les mêmes gens,
les mêmes volts. C'est quoi la recette?
Non, mais la recette, en vérité, c'est le public. Bon, d'abord, il y a la recette de l'écriture, bien sûr, et de Jamel et de Ramzi. C'est les mêmes personnages qu'on a autour de la table, hein, et autour du micro. Mais c'est aussi le public, la recette. C'est-à-dire que quand vous avez des acteurs qui doivent jouer une séquence devant des gens qui attendent quelque chose et qui attendent de rire, et ben forcément ils se surpassent, tout le monde se surpasse, et il y a cette énergie qu'on retrouve après sur le plateau et qu'on retrouve après à l'écran. Donc la vraie recette de la sitcom, en fait, les Américains l'ont compris, c'est que les comédiens ne sont pas les mêmes, les auteurs ne sont pas les mêmes, tout le monde est un peu différent dans la sitcom, et ça donne une énergie supplémentaire qui est un peu différente de ce qu'on a dans une fiction normale. On a beaucoup mangé de fiction, moi je trouve que ces dernières années, beaucoup de séries dans tous les sens, et ça fait du bien de revenir à une recette qui est un peu plus live, quoi, un peu plus en direct. Et je trouve que ça change un peu et c'est hyper rythmé et je trouve ça hyper agréable à regarder, quoi.
Dernière question, Mohamed Hamedi, c'est un vrai pari avec vous et Jamel Debbouze?
Bien sûr. Non, c'est un vrai pari. Nous, on aime ça, les paris. Quand on a monté le Marrakech du Rire, c'était un pari. Quand on fait des films, La Vache, c'est un pari. Et là, effectivement, Terminal, c'est un pari. Parce que revenir 25 ans après, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour la chaîne, pour nous, pour les auteurs, pour les acteurs. Et d'ailleurs, voilà, nous, on remerciera jamais assez tous ceux qui nous ont aidés à monter ça. C'est-à-dire la chaîne, déjà, Canal+, mais aussi Ramzi qui nous a fait confiance. Et puis tous les acteurs qui sont venus nous aider, les auteurs, les directeur d'écriture. Enfin, c'est un travail collectif. C'est 100 personnes qui ont bossé pendant 3 ans à plein régime pour pouvoir sortir ça. Et donc, on est très fiers aujourd'hui d'être sur Canal Plus avec un projet aussi ambitieux et aussi dingue, parce que c'est quand même un projet complètement dingue.
Puisque vous êtes le bras droit de Jamel Debbouze, justement, vous m'avez tendu la perche, Mohamed Hamidi. Que va devenir le Festival du Rire à Marrakech?
Ben, c'est vrai qu'on l'a mis en suspens pour le moment parce qu'on avait ce projet qui était un projet qu'on avait depuis très longtemps, qui était de revenir sur la sitcom. Et donc ça nous a pris tant notre temps depuis 2 ans. Moi j'ai bossé à plein temps là-dessus. C'est sûr que Marrakech du Rire, c'est un gros moment pour nous. On espère vraiment qu'on y retournera parce que le Palais Badi, c'est magique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur place, mais oui, c'est un endroit extraordinaire pour les comédiens, pour tout le monde. Et franchement, on a vécu 10 années formidables. Après, c'est vrai que dans une carrière, que ce soit d'acteur, de producteur ou de réalisateur, on a envie aussi de faire des choses différentes. Alors on espère que tout ça va perdurer, mais c'est vrai qu'on a aussi envie de toucher à la fiction, de toucher à la sitcom. Et malheureusement, on ne peut pas se dédoubler. Donc pour le moment, on est sur Terminal. Et puis quand on aura, je pense, un peu plus de temps, on reviendra sur scène.
D'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire, mon cher Mohamed Hamidi, à celles et ceux qui nous écoutent partout en France, pour ce soir, Terminal? Rendez-vous à ne pas manquer. Franchement, on va se marrer, je vous le dis clairement. Allez-y, sur Canal.
Franchement, ouais, faut y aller, faut regarder ça. C'est vraiment, c'est jouissif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ri comme ça. On n'a pas retrouvé Ramzy et Jamel. Il y a des découvertes aussi formidables, comme Brahim Boulel, comme Laurine Apogénant, Tristan Lopin, que je ne connaissais pas, Camille Chamou, Samuel Bambi, Alexandre Arot. C'est vraiment plein de jeunes aussi qui amènent leur touche quoi, dans l'univers de Jamel. Et vous allez voir, c'est très rythmé, c'est péchu, c'est drôle. Et ça donne envie d'y retourner. Donc je vous souhaite de regarder et d'avoir envie d'y retourner.
On a envie d'y retourner justement. Nous aussi, on a envie de se marier un peu. On va se refaire la bande-annonce. Merci Mohamed Hamidi, co-réalisateur avec Jamel Debbouze de Terminal, la série, la sitcom, qui évidemment très attendue ce soir à 21h sur Canal. Mon cher Mohamed, je vous souhaite d'abord bon vent. On se connaît, hein. Bon vent.
Bien
et
sûr.
Vraiment, je vous le vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite un véritable carton pour cette sitcom.
Bah, merci Adil. Et moi, je tiens à dire, en fait, aussi Adil, que on se connaît. C'est vrai que vous avez toujours été là pour soutenir mes films, que ce soit les premiers, les films du milieu, les nouveaux. Donc moi, je suis toujours très content d'être sur Beurre FM et de vous parler pour défendre les projets qui me tiennent à cœur.
On lâche rien, mon cher Mohamed. On lâche rien, vous le savez. Allez, on se quitte et après on se retrouve avec les débatteurs influenceurs qui sont là. Emmanuel Dupuis, notamment Karim Maloum et Jimmy Dalidou pour débattre des sujets de l'actualité. Mais avant la pause, c'est quoi? On se quitte avec la bande-annonce. Merci Mohamed, je vous embrasse. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément. Je sniff de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée?
La tête à genoux, les fesses à plat ventre.
T'as gâté?
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, vous le savez, tout de suite, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Emmanuel Dupuis, le président, le fondateur, ah là là, de l'Institut Lips, tout ça en même temps. Et vous êtes le secrétaire général aussi de l'UDI, les centristes.
Non, secrétaire national.
Du nouveau centre. National.
Non, secrétaire national des centristes.
Des centristes, oui.
Oui.
J'ai dit quoi?
Secrétaire général.
Ah, général, non, c'est secrétaire national.
Ouais. Chargé des questions de défense.
Des questions de défense, absolument. Yes. Bienvenue.
Toujours un plaisir.
À vos côtés, c'est quoi, les journalistes entrepreneurs? Karim Maloum, bonjour.
Bonjour à tous.
Polémiste aussi à 16 heures perdues.
On l'est tous, hein?
Tout le temps. Depuis 35 ans.
Jimmy Dalidou, alors lui aussi c'est un polémiste. Hein. Alors lui, il enchaîne les casquettes. Il est hôte, représentant syndicat CGT. Il est militant, il est sur tous les fronts.
Je sais pas comment vous faites. Bonjour à tous.
Ça va?
Ouais, écoutez, ça va, tranquillement.
Allez, un sujet d'actualité, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, vous savez quoi, souhaite la stratégie du chaos. Ce soir à Sciences Po, il veut faire une conférence après le loupé à Lille. Emmanuel Dupuis. Franchement.
Oui, alors stratégie du chaos.
Il cherche quoi, Mélenchon?
Bah, il cherche précisément ça, la stratégie du chaos. D'ailleurs, vous faites référence à la une de l'opinion, oui. Hein, qui l'évoque, grimée en clown,
oui.
En mettant en avant le fait que il y a évidemment un contexte très particulier où Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat pour les européennes, il faut le rappeler quand même, hein, c'est pas lui la tête de liste, mais est en train en gros de remettre en cause, me semble-t-il, on pourra en débattre, la neutralité universitaire, en tout cas la neutralité qui sied aux lieux universitaires, que ce soit Sciences Po ou les différentes universités où il n'a pas pu faire de meeting. Je rappelle qu'il y avait déjà eu un précédent, hein, Rennes et Bordeaux, et pas accuser tous les présidents d'être dans la même logique politique. En gros, le président de LFI fait une campagne dans les campus. C'est sa stratégie. Je ne suis pas du tout certain que ce soit comme ça que l'on gagne des électeurs. Il y a un petit peu une sorte de victimologie de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors en plus pour Sciences Po, et je serai très bref, c'est un peu facile puisque Sciences Po est en crise, comme vous le savez. Le directeur général Mathias Vichra a été obligé de démissionner,
exact,
suite à des questions d'ordre privé, oui, mais judiciaire. Et donc il y a une profonde crise dans l'institution. Maintenant, ce qui se passe à Sciences Po, comme dans d'autres universités, est assez symptomatique d'un débat qui ne peut plus être apaisé. Je me souviens, peut-être que mes amis, qui sont peut-être plus jeunes que moi, ont vécu la même expérience. Il fut un temps où les associations étudiantes à Sciences Po, ou dans Sciences Po, ou dans les différentes universités, je prends mon cas pour Sciences Po, adoraient débattre. Mmh. Maintenant, c'est pas la même chose. Là, c'est une campagne électorale. Mmh. On fait pas une campagne électorale dans un lieu où on est supposé être dans le temple du savoir.
Karim Aloum,
je rejoins effectivement. Je pense que l'université n'est pas faite pour faire des meetings politiques, parce que c'est des salles gratuites, c'est des salles qui appartiennent à l'État. Si un homme politique veut faire des meetings, il n'a qu'à louer des salles à l'extérieur pour faire ses meetings. Ça, c'est le premier point. L'université, et c'est un lieu de débat effectivement, de recherche, de confrontation d'idées. Mais il faut être un chercheur, il faut faire un universitaire, il faut apporter quelque chose.
C'est une contradiction.
Et contradiction, c'est pas pour un meeting, et surtout un meeting autour de quoi? On nous sommes en pleine campagne d'une élection continentale. M. Mélenchon la transforme en élection présidentielle. Et plus, le seul thème, c'est la Palestine. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est un détournement qui fait démocratique. C'est-à-dire qu'il y va dans les universités, c'est un peu, il part dans les endroits où il est capable d'avoir ses militants pour un peu faire le français comme il fait en Sciences Po aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'elle a qualifié le président de l'université et l'accompagne à Eichmann, un nazi notoire. Il a osé comparer un président de l'université à un nazi notoire. C'est un homme, je trouve, abject. Monsieur Mélenchon, il n'a plus de limites. Il est dans l'outrance. Il veut tout conflictualiser. Il a théorisé en 2012. En 2012, il a théorisé, il a dit qu'il faut tout conflictualiser, comme Chavez. Là où je passe, il faut, à l'université, vous conflictualiser. Le corps a regardé à l'Assemblée nationale.
Coûte.
Tout
il cherche quoi à faire ça? Il cherche quoi?
Il cherche, je répondrai à la question. Je vais juste terminer que je pense. Quand on pense à l'histoire de la gauche, à Léon Blum, à Jaurès, à Camus, on peut penser à beaucoup de gens qui ont marqué, François Mitterrand, tous les gens, Michel, qui ont marqué l'histoire. Et à un niveau, ils ont toujours cherché le consensus dans la société. Hein. Ils ont toujours voulu que défendre l'intérêt général, on a quelqu'un qui a vraiment dominé cette gauche, le fait qu'il est à la dérive, hein, il en voit même des disparitions, il domine cette gauche, on le voit, elle est en train de créer un conflit, il monte des Français contre des Français. C'est indigne de sa part, je pèse mes mots, il développe un discours antisémite, il dirige même un parti, le premier parti antisémite de France, j'assume mes propos et je le dis, et tout là où il passe, il parle que de Gaza, de la Palestine, il rassemble des gens pour créer la haine des Juifs, la haine d'Israël et la haine de la démocratie, et c'est inacceptable dans une démocratie.
Jimmy Dalidou.
Bah écoutez,
alors, j'imagine que vous partagez pas du tout. Vous.
Ouais, pas alors pas du tout. Mais
pas
alors,
du pas tout. Du justement, tout.
Je constate que mes prédécesseurs ici présents sont relativement confus. Non, première chose. D'abord, je pense qu'il faut, on peut pas nier cette réalité que LFI. Alors moi, je suis pas un partisan de LFI, mais c'est une analyse des faits. C'est une analyse de ce qu'ils sont. LFI est une force sociale dans ce pays. Et à partir du moment où LFI est une force sociale dans ce pays, il faut qu'il y ait parole, expression, quel que soit l'endroit. Je suis pas d'accord avec Emmanuel parce que je crois qu'il y a pas de contradiction, ma foi, entre le savoir d'un côté et le débat de l'autre. Je pense que la contradiction, la véritable contradiction, le véritable débat, la véritable contradiction, je parle pas le faux débat de balle, qui sert la politique politicienne. Le véritable débat demande à ce qu'il soit mis en articulation et en exergue dans justement les lieux où la réflexion se développe et se forme. Donc Sciences Po, ma foi, c'est bien un endroit où il y a, c'est un conglomérat de plusieurs, conglomérat de réflexions de venir. Je reviens sur ce que
disait. Donc semer le chaos, pour vous.
Non, c'est pas semer chaos. Je pense qu'il faut pas confondre débat, vrai débat, à un moment où on est dans un contexte national et international.
Donc il a raison.
Et semer le chaos.
C'est pas un débat, c'est un meeting.
Je vous pose la question. Est-ce que ça vous gêne quand le Rassemblement National passe partout, même chez des étudiants, et qui tiennent un discours anti-palestinien? Ça vous gêne?
Allez-y, répondez.
Tout d'abord,
parce qu'a priori, dès qu'il y a du débat dans ce pays, on devient antisémite. C'est bizarre, ça.
Vous me posez une question, je vais vous répondre.
Ouais, merci.
Je vous réponds. Je pense que vous confondez, cher monsieur, le débat et un meeting. C'est pas la même chose. Un débat, c'est une confrontation. Il y a trois personnes, c'est normal. L'université peut organiser un débat entre 3-4 personnes avec une contradiction, bien entendu. Mais quand vous faites un meeting politique dans une université ou même dans n'importe quel endroit, c'est un détournement, un, des biens publics, déjà. Deux, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat. Par contre, à la Palestine dont vous parlez, vous parlez de Rassemblement National. Attends, mais je comprends même pas pourquoi vous faites la comparaison. On parle de M. Mélenchon, vous revenez au Rassemblement National. Le peuple palestinien a le droit...
Vous faites deux erreurs, tu fais deux erreurs.
Deux erreurs,
je vais revenir sur les deux erreurs que tu as faites. La première chose, c'est qu'un meeting est conditionné par le débat. Un bon meeting politique est conditionné par le débat.
Un meeting, c'est
c'est des histoires farfelues à 2050. Un vrai meeting politique a toujours été déterminé et conditionné par un véritable débat. Faux. Parce que le sens du meeting politique, c'est de mettre en exergue les réflexions qui, à un moment, entrent en contradiction.
Mais à sens unique.
Sinon ça devient monologue.
Voilà.
Karim, ensuite après il y a Emmanuel Dupuis.
Maintenant par rapport au Rassemblement National, la Palestine, toutes ces questions. Mais c'est incroyable, ça tourne autour de la Palestine. Aujourd'hui, le problème qui est à Gaza, il est dur, c'est un problème qui commence depuis le 7 octobre, depuis l'attaque du Hamas.
Non, ça commence en 1948. Et bien avant.
Mais il faut que lui demander d'Adil, et on ne peut pas discuter avec quelqu'un qui...
Laissez-le finir, même si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez l'occasion de lui répondre.
D'accord. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a besoin des forces de paix, on a besoin d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza. Ce n'est pas transférer le conflit qui est à Gaza en France. Il ne faut pas faire ce transfert parce qu'on n'a pas les... On ne peut pas les capacités, s'il vous plaît. On n'a pas les capacités à affronter ce genre de discussion parce que ce n'est pas notre conflit.
C'est différent. Mais c'est déjà fait, le conflit est déjà intériorisé.
Bien avant
cet octobre.
Arrête ce qu'il avance. Ouais.
Pour revenir sur ce qu'a dit Jimmy, il s'agit bien... On ne parle pas de tout à fait la même chose. Effectivement, à Sciences Po, il y a eu des débats autour de la Palestine. À Sciences Po Paris, il y a eu des débats sur la Palestine. Dans lequel il y avait des gens qui défendaient la solution à deux États, qui a mené et qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat avec une contradiction. Je vous donne un exemple. Il y avait d'un côté Jean-Paul Chagnelot, le président de l'IREMO, plutôt pro-palestinien, et de l'autre côté Gilles Kepel. Donc, venez pas nous dire non, le débat n'existe pas. Là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon qui fait un meeting de campagne électorale dans lequel il n'y a de présents et d'intervenants, non pas des professeurs de Sciences Po. À la rigueur, si Jean-Luc Mélenchon était rentré dans un débat avec des professeurs de Sciences Po, soit Gilles Kepel.
Mais il connaît le terrain.
Non, mais c'est pas le problème. C'est pas le lieu.
C'est pas
le débat juste, non pas du fond, là-dessus on pourrait être d'accord, mais du lieu. Encore une fois, je rappelle que une campagne, elle est parfaitement séquencée.
C'est excessivement grave ce que vous dites.
C'est excessivement grave,
c'est-à-dire. C'est excessivement grave parce que, en fait, indirectement, vous dites. Alors, je rappellerai que dans cette salle, ils étaient combien à écouter. Ils étaient combien à être entrés dans la salle, à s'être installés dans la salle et à vouloir, de leur propre chef, discuter avec la formation France Insoumise.
On parle de la même chose.
On parle de la velléité de beaucoup de jeunes étudiants de Sciences Po.
Ce n'est pas l'université.
Qui, de leur propre chef, ont voulu aller débattre et discuter avec une formation politique.
Emmanuel,
qui vous êtes pour remettre en cause leur volonté de développer leur réflexion,
de dire des âneries et des bêtises. Vous dites n'importe quoi. Dans un débat, il y a théoriquement une contradiction. Trouvez-moi, et là je vous demande de répondre tout de suite, dans la configuration actuellement à Sciences Po, quelle est la contradiction? Qui va porter la contradiction à Jean-Luc Mélenchon?
Mais à partir du moment où tu es dans une salle et qu'il y a d'un côté des jeunes de par leur
vécu,
de par leur expérience de jeunes.
Je suis universitaire.
Qui sont en train d'apprendre.
Tout ça, c'est n'importe quoi.
Plusieurs éléments. Et je, en plus, on parle de Sciences Po.
Qui porte la contradiction.
On parle de Sciences Po.
Qui porte la contradiction.
À partir du moment où vous avez une contradiction, d'un côté, des jeunes qui sont une force sociale en devenir, et de l'autre côté, une formation politique qui trouve un certain ancrage. À partir de là, vous cristallisez la contradiction dans un lieu franchement propice à la véritable contradiction.
S'il vous plaît, on va la conférence.
Vous avez une vision totalitaire du débat. Pour vous, le débat, c'est à sens unique. Ce débat que M. Mélenchon organise à Sciences Po, il est à sens unique. Il prend la parole, même si des jeunes prennent la parole, c'est des jeunes mélenchonistes. C'est des jeunes qui sont proches du mouvement Hamas, des pro-Hamas dans cette conflit.
C'est grave ce que vous dites.
Votre vision totalitaire, monsieur, ce n'est pas la démocratie. Ce que vous défendez, monsieur, ce n'est pas la démocratie.
Laissez-moi
terminer.
Tous les étudiants de Sciences Po, c'est le chef.
On était bien jusqu'ici, on est bien. Faut vous écouter.
Je termine juste. C'est que la confusion qui est faite dans cette campagne électorale d'un homme politique qui utilise les moyens, je le répète pour la troisième fois, de l'État pour faire de la propagande, il n'a qu'à louer des salles et faire son meeting.
S'il vous plaît. On va laisser essayer de chercher le direct. Je ne sais pas si.
J'ai mis la ligne, vous allez tourner votre tête et vous allez regarder ce qu'on est en train de voir.
C'est sûr que la Macronie ne fait pas de propagande.
Non, mais vous allez voir ce qu'on.
Emmanuel.
Regardez. Là, actuellement, le direct de Sciences Po, image fournie.
On est en ce moment même.
Image fournie par LFI, d'accord ? Regardez l'annonce, l'affiche. C'est pas une conférence organisée pour les étudiants de Sciences Po. C'est une conférence organisée par une association proche de LFI à Sciences Po.
Et Mélenchon,
donc ce que vous dites,
c'est tout.
Alors, on serait vrai. Si c'était vrai,
alors,
ce que vous dites, ça veut dire que tout ce que vous venez de dire,
c'est qu'il y a un problème avec la jeunesse. À partir du moment où LFI discute avec la jeunesse, ça devient un problème politique.
Je vais solliciter.
Mélenchon,
on va couper le micro sinon. Vraiment, je vais être catégorique là-dessus parce que je veux. Non, c'est pas ça. Je veux vraiment qu'on s'écoute parler parce que sinon après ça devient vraiment la cacophonie. Je veux solliciter nos auditeurs. Non, je dis pour tout le monde. Je veux solliciter nos auditeurs au 01 53 48 3000. C'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On a les amis, on a les images en direct en ce moment où Jean-Luc Mélenchon s'apprête de parler à Sciences Po. Sarah de Paris. Bonjour Sarah. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, quel est votre avis, ma chère Sarah?
Justement, je suis pour Mélenchon, je
ne
peux pas dire.
Non, j'entends très très mal. On vous entend très mal, Sarah, très très mal. Dommage, elle a été coupée. On va prendre les auditeurs au 01 53 48 3000. Sarah qui disait que je suis Mélenchon, je suis pour Mélenchon, et elle a été interrompue. Bon. On va prendre d'autres auditeurs. 01 53 48 3000. On peut les prendre en direct, hein, comme ça, et allez, tout de suite. Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où?
Adil, comment va? Adil Moubarak, Tamari de Grenoble.
Si, je vous aussi, mon cher Amadou de Grenoble.
Ouais,
mais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Mélenchon?
Non, mais Mélenchon, des fois, moi, je pense que c'est une crise politique. Je suis socialiste. Aujourd'hui, qu'on a des citoyens français qui vont ailleurs. Parce que la politique socialiste n'est pas menée égalité comme liberté, l'égalité française. On a une crise politique, on ne devrait pas plus. On lâche rien.
Mais en gros, Amadou, est-ce que Mélenchon doit faire sa conférence à Sciences Po, oui ou non? Est-ce que selon vous, c'est crédible ou est-ce qu'il est discrédité en faisant ça?
Mais en faisant ça, c'est-à-dire que le truc de la Palestine, c'est une politique étrangère. C'est qu'il y a des citoyens palestiniens, des citoyens qui sont nés d'origine palestinienne, donc aussi, comment dire, ils devraient. Pour le problème là, il faut voter, il faut se combattre politiquement.
Merci Amadou pour votre intervention. Vous savez quoi, Solal, il va nous prendre tous les appels au 01 53 48 3000. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler, messieurs. D'accord, ça vous va? C'est très important, un sujet extrêmement important. A tout de suite, ne quittez pas, restez avec nous. Évidemment, ne quittez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h38, Les Informés avec Jimmy Delidou, avec Karim Malou, mais enfin avec Emmanuel Dupuis. Solal, les auditeurs ont la parole, c'est parti, jingle, hein, vous savez.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Autant vous dire que je suis ravi. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous les soirs très nombreux. Mais surtout, on a beaucoup de monde au standard. On a Aboulaye du 91, Kader, Amar, Rabat, Moussad, Karim et tous les autres au 01 53 48 3000. Je commençais par le 91, Aboulaye. Bonsoir Aboulaye.
Oui, bonsoir. Merci de donner la parole.
Vous vous appelez de quelle ville du 91 ?
La ville ?
Oui.
C'est le 91.
Oui, mais ça, c'est un département. C'est quelle ville ?
Ouais. C'est une ville du 91.
Vous voulez pas en parler. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Aboulaye ?
Je suis employé, je suis ouvrier.
Allez, on vous écoute, Aboulaye. Dites-nous tout sur Mélenchon. En fait, à Sciences Po.
Voilà, moi j'ai une question à poser aux invités là, par rapport au meeting. Est-ce que il y a jamais eu de meeting dans un amphithéâtre d'université par un parti politique ? Il me semble que oui.
Alors Emmanuel vous question. Répond. Emmanuel Dupuis vous répond. Après c'est le spécialiste. Il vous répond.
Après
il enseigne justement.
Oui, juste par rapport à ça. Si c'est le thème, on sait que on est en période un peu de l'élection, la période électorale. Les thèmes, ils peuvent être n'importe quoi. On parle de l'Ukraine, on parle de la Palestine. Donc une fois qu'on a le droit de tenir un meeting dans un amphithéâtre, quel que soit le thème, on tire le thème qu'on a envie, quoi.
Aboulaye, merci pour ces deux questions. Il s'y colle, Emmanuel
Dupuis. Sur le fond et la forme.
Merci, alors, je vous libère, Aboulaye. Merci pour votre appel. Il vous répond.
Sur le fond et la forme, j'étais en train d'en parler. Éric Zemmour s'est vu refuser aussi de faire des meetings dans l'université. Donc ça ne cible pas seulement Jean-Luc Mélenchon et d'autres candidats aussi. Encore une fois.
Mais répondez, Aboulaye, sur la première question.
Oui, il y a des meetings qui ont été interdits, puisque les universités ont signé une charte, comme quoi ils n'ont pas à rentrer dans la campagne électorale.
Deuxième question.
Il faut que l'université soit un lieu de débat. L'université ou les écoles et Sciences Po, accessoirement. Mais encore une fois, dans la condition du débat. La condition du débat contradictoire, elle est simple. D'avoir à la tribune des gens qui vont défendre des positions et dans lequel un certain nombre de gens dans la salle seront d'accord ou pas d'accord pour étayer leur point de vue ou pour accroître leur connaissance. C'est ça le débat scientifique. Après, le débat politique, c'est autre chose. Je suis pas contre le débat politique, mais si Jean-Luc Mélenchon veut faire campagne, eh ben, il prend une salle, comme le font tous les candidats, et il invite qui il veut. Absolument. Et il autorise à rentrer qui il veut. Dernier point, juste parce que c'est important.
Allez-y.
On loupe sans doute l'essentiel. Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, n'est pas tête de liste pour ces élections européennes. Et il me semble que le vrai débat, c'est que malheureusement, le 9 juin, on est en train de nationaliser des élections dont le but n'est pas d'élire Jean-Luc Mélenchon candidat à l'élection présidentielle en 2027, c'est pas à moi d'en juger, mais d'élire 81 députés européens.
Faut que je prenne les
et
auditeurs.
Donc, on est en train de s'aborder une campagne, je le dis aussi et en vous donnant un contre-exemple. Quand Jordan Bardella dit que le 9 juin au soir, il faudra dissoudre l'Assemblée nationale, quelle connerie ! Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'élire des députés européens.
Tout le monde veut détourner cette campagne sur les Européens.
Kader, bonsoir Kader de Paris, bonsoir Kader.
Bonsoir à Adil.
Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Kader ?
Je suis le métier taxi parisien.
Ah, bravo aux taxis parisiens, je kiffe. Ils sont tous branchés à BFM, les taxis parisiens.
Chaque fois, je prends un taxi, ils me disent qu'on est branchés sur BFM.
C'est incroyable. Bon, respect les taxis, les taximans et women. Allez, on vous écoute, Kader.
Alors, pour l'intervention de M. Mélenchon, en fait, aujourd'hui, ce qui est dramatique dans la vie politique et surtout actuellement, c'est l'opinion et l'idéologie. Et comme c'est la seule force aujourd'hui politique sur le terrain qui défend une guerre génocidaire qui se déroule à Gaza, et donc c'est l'ennemi à abattre, et donc on va mettre toutes les bâtons dans les roues pour que ces meetings ou ces conférences, ils sont toujours tachés par une sorte de non-opinion et que c'est pas le thème et que c'est pas l'endroit exactement. Aujourd'hui, la sphère politique, je pense, en France, ça sent pas bon du tout à cause de ça. Et force aux élus, force aux candidats, parce que franchement, ils vont vraiment se battre pour
De la voix, quoi.
Karim, monsieur le taxi. Karim, vous répondez, monsieur Kader.
Franchement, la France est un pays démocratique et que le mouvement de monsieur Mélenchon, ils ont des députés, ils ont de l'argent, ils peuvent les salles, ils peuvent faire leur campagne, il n'y a aucun problème. Nous sommes sur une campagne électorale concernant une campagne continentale. Sur l'Europe, l'avenir de l'Europe. Et là, tout d'un coup, monsieur Mélenchon détourne l'attention et manipule même l'argent public. Il utilise l'argent parce que l'argent public est donné pour faire cette campagne. Il prend cet argent et fait ça une campagne, non pas dans le cadre de l'élection européenne, mais pour même une élection présidentielle sur un thème précis, que sur la Palestine. Il ne veut pas discuter de rien d'autre, il veut discuter que de ce sujet. C'est un détournement.
Oui, je pense qu'il y a une contradiction entre d'un côté le fait de dire que l'Europe c'est une élection européenne et qu'elle serait uniquement européenne et continentale, comme le dit Karim, que continentale, etc. Mais je vous rappellerai quand même que dans l'Europe, il y a un pays qui s'appelle la France, que la France est un des pays fondateurs de l'Union européenne d'ailleurs. Et je vous rappellerai qu'à partir du moment où les directives européennes, je vous rappellerai que la plupart des directives européennes, soit dit en passant, sont des obligations, ne sont pas des conseils qui sont imposés aux États. Hein. C'est bien des directives qui sont imposées aux États, et quand vous mettez pas en application les directives, vous avez des amendes, etc. Bref, donc je vois pas pourquoi, comme monsieur Karim Maloum, qui voudrait différencier l'Europe d'une manière continentale et la France.
Allez,
et ensuite, dans toutes les lieux où il y a de la réflexion, où il y a une conscience en devenir, il doit y avoir débat.
Allez, direction. Monsieur, non, vous inquiétez pas, je suis le. Je gère. Moussad de Paris, je veux juste quand même prendre quelques minutes, parce que c'est un sujet important. Bonsoir, Moussad.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Moussad ?
Moi, je suis cadre dans la fonction publique.
Allez, on vous écoute, mon cher cadre de la fonction publique.
Moi, je suis pas totalement d'accord avec. J'ai pas retenu les noms.
Quand il Emmanuel, disait, Karim ou Jimmy.
Karim, quand il disait que le Sciences Po n'est pas le lieu pour discuter, justement, c'est le lieu. C'est le lieu où il y a des étudiants, c'est le lieu où il y a le débat.
Voilà. Il est cadre de la fonction publique, voilà, il vous répond.
Adil, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, monsieur.
On a juste dit que... Attendez, laissez-le finir quand même.
Je vous prie juste de m'excuser, je termine.
Vous en prie, monsieur.
Ce qu'il faut savoir, monsieur, c'est qu'on est en 2024. On a vécu pendant des années... Moi, je suis d'origine maghrébine. Hein, je suis d'origine algérienne. Pendant des années, on a vécu le plafond vert dans nos métiers respectifs. On a toujours été malmenés. Depuis le 7 octobre, c'est de pire en pire. Le seul qui défend un petit peu les musulmans, c'est Mélenchon. Il y a une chasse aux sorcières parce que c'est Mélenchon, parce qu'il défend les musulmans. C'est dramatique ce qui se passe en ce moment. Moi j'ai peur, je vous le dis honnêtement. Hein.
Ouais.
Moi j'ai 60 ans, j'ai peur. Bon. J'ai peur de ce qui va se passer, comment la France a tourné. On est gouverné par des pro-israéliens. C'est le terme. Hein.
Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. C'est bon, on n'est pas en Israël ici.
Ouais, il a le droit de dire c'est ce qu'il pense. Il faut respecter ce qu'il pense.
Monsieur, excusez-moi, je ne suis pas antisémite. Hein, qu'on se mette d'accord. Hein, du tout. Hein.
Personne n'a dit ça.
Mais comment il s'appelle déjà ?
Mais il faut dire les choses. Il faut les dire les choses.
Bien parler,
vous savez. Pas les choses.
Alors attendez, Moussa. Merci pour votre intervention. Karim vous répond, Emmanuel vous répond.
Je pensais
très court, s'il vous plaît.
Les musulmans ont supposé, parce qu'on dit toujours les musulmans, ils supposaient parce que dans cette communauté il y a des athées, des apostats, etc. N'ont pas besoin de personne pour les représenter. Nous sommes majeurs pour nous défendre. Monsieur Mélenchon, que fait de la manipulation ? On n'a pas besoin de lui. On est majeurs de nous exprimer, d'être droit de gauche ou droit de centre.
Vous voulez réduire la liberté d'expression ?
Emmanuel, clochette. Emmanuel, qu'est-ce que vous répondez à Moussa ?
Moi, je ne comprends pas le débat.
Moussa, répondez à Moussa.
Oui, je ne comprends pas le débat. On n'a jamais dit que Sciences Po n'était pas le lieu du débat. Sciences Po est, par excellence, les Sciences Po, les universités sont le lieu du débat. Ce n'est pas du tout ce qu'on a dit. On a juste dit qu'une campagne électorale, avec un candidat...
Ce n'est pas une campagne électorale, monsieur.
Ah ben si, il est en campagne électorale, monsieur Mélenchon, excusez-moi.
Il est parti pour discuter de la cause palestinienne.
Mais non, il n'était pas dans le cadre de la campagne. Excusez-moi, il était accompagné de Manon Oubry et de la plupart des députés qui feront partie de sa liste, des 81 membres de sa liste. Mais s'il avait été parlé du gouvernement Netanyahou, ça serait passé ou pas ?
Mais
je suis totalement d'accord avec Moussa. À un moment, il y a un mal-être dans le pays et tout le monde demande à discuter.
Encore une fois, vous voulez réduire
les Français au silence. Voilà votre
discours. Que ce soit sur la police, sur l'Israël, il n'y a pas de meeting à l'université, c'est clair, monsieur.
Vous avez des auditeurs qui vous le disent.
Monsieur, s'il vous plaît,
ils ont un mal-être. Devant ça, votre réponse est réduire au silence les jeunes Français, surtout les jeunes étudiants. C'est excessivement grave.
On se respecte. Emmanuel Dupuis.
Ouais. Avec vous, vraiment, le débat est impossible. Le débat est impossible, mais je pense que les auditeurs sont
d'accord. Alors, les auditeurs sont d'accord. Alors, Moussa est d'accord avec Jimmy.
Ah bah, il peut. Mais moi, je suis d'accord avec Moussa, c'est
Moussa.
Ça
Moussa mais il est d'accord avec Jimmy.
Vraisemblablement, il n'a pas compris ce qu'on voulait dire. Moi, je suis professeur d'université. Je vais vous dire, moi, je fais des débats politiques en permanence avec mes étudiants. C'est pas le problème. Je dis juste que je ne me viendrai pas à l'idée d'inviter un candidat, ou plutôt une liste, dans mes cours. Pour ne pas perturber la quintessence de ce débat. Alors je vais faire une proposition. Si M. Mélenchon veut parler de Palestine, il ne faut pas venir à Sciences Po Paris, où on attire les caméras, volontairement. Il faut aller à Sciences Po Menton, dont le but est de parler de la position de la France dans la Méditerranée. Là, ça aurait été peut-être un petit peu plus acceptable.
Allez, on avance, monsieur, on va traiter l'autre sujet. Merci, Moussad. Ouais. Ma mère m'a forcé ça, c'est une déclaration face à Gabriel Attal, un jeune homme pas content du tout de se retrouver en internat éducatif. Alors, Gabriel Attal était en déplacement aujourd'hui à Nice pour lancer justement cette expérimentation des internats éducatifs. Alors, à cette occasion, vous savez quoi, il a beaucoup, beaucoup échangé avec des jeunes. Et pas forcément séduit par ce concept, chers amis.
Mais au fait, il n'y a aucun ado, un pré-ado qui veut aller en internat. Ça n'existe pas, ni en France, ni dans le monde. C'est-à-dire que personne ne veut se couper de sa famille, de son quartier, de ses copains. Mais les parents ont le choix, ils s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent décider s'ils sont dépassés ou ils n'ont pas les moyens. Possible, ils habitent des petits appartements, il y a les 15 jours pour à faire du sport, d'après ce que j'ai appris, faire du sport, faire une remise à niveau, et puis se désintoxiquer un peu de téléphone, etc. Un peu d'autorité, un peu d'ordre, mais c'est formidable. Aujourd'hui, on voit que c'est de la violence qui monte chez les mineurs, les incivilités, les films entre eux, etc. Je pense que c'est un fléau de société, et que genre, heureusement, je ne vais pas dire c'est la bonne idée, mais il fait partie parmi d'autres idées d'ouvrir des internats à des jeunes. Et en même temps, juste une petite remarque, c'est des gens plus de 13 ans, il fallait le faire même avant. Voilà, mais pour moi, c'est une bonne initiative.
Bonne initiative pour Karim Maloum. Emmanuel Dupuis, très court, parce qu'on va retrouver le quoi de neuf, justement.
Non, mais moi, je serais d'accord avec Karim si on parlait évidemment d'internat, mais il ne s'agit pas d'internat. Il s'agit d'internat pour des primo-délinquants.
Ouais.
C'est pas du tout les internats.
Ouais.
On parle pas du tout la même chose. On parle de décrocheurs qui ne veulent plus être scolarisés, ou pire, que les éducateurs ne veulent plus prendre.
Donc c'est pas du tout. Sont dépassés.
Non, c'est les primo délinquants. Je rappelle que Gabriel Attal était assis à côté du ministre de la Justice. Ces internats sont pilotés par l'Éducation nationale et par la justice. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des internats. Là, il s'agit d'autre chose.
Écoutez, connerie monumentale de Monsieur Attal, parce qu'il vous parle, il vous dit que ces jeunes intégreront un internat. Pourquoi? Mot pour mot, parce qu'il y aurait des mauvaises fréquentations ou parce que pour les détacher de leur environnement. Alors il veut agir sur au final des jeunes qui sont victimes des mauvaises fréquentations entre guillemets, mais par contre sans agir sur les mauvaises fréquentations justement, et sans agir sur l'environnement qui sont souvent les quartiers populaires. Donc encore une fois, c'est le choix de la passivité, de la répression, de l'irresponsabilité, et c'est le choix de celui qui n'écoute pas le peuple français, surtout les jeunes de France.
Je rappelle qu'ils ont été...
Ils sont désespérés d'ailleurs.
Ça nécessite pas le commentaire.
Allez, vous savez quoi, tout de suite
il répond à sa propre intervention.
Comment vous dites quoi, Karim Maloum?
Je dis qu'il répond à sa propre intervention. Toujours les banlieues, les quartiers populaires, c'est la fin du monde. Il faut mettre les milliards.
En attendant, oubliez les banlieues dans ce pays.
Quand on a des gamins qui ont basculé dans la... S'il vous plaît, je vous ai pas coupé.
Toutes les banlieues, c'est pas l'extrême droite, si vous voulez.
Clochette, laissez-le finir.
Mais oui.
Vous avez que ça à votre bouche. L'extrême droite, l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit surtout des familles monoparentales. On les a vues dans Zimut. On a vu des enfants de 12 ans, 11 ans, 13 ans, à minuit, à 2 heures de matin, dehors. Possible, les parents sont dépassés.
Ouais, il faut que
l'éducation nationale prenne ça en charge, ou l'État prend ça en charge. C'est une bonne mesure.
Le quoi neuf.
Quand on pense matin, midi et soir que
qu'est-ce qui fuit. On est en retard. D'accord. Il faut que je lance le quoi de neuf.
Les informés. Le quoi de neuf.
Je suis désolé, mais parfois il faut y aller. Hein. Et après, on se retrouve tout de suite après. Michel Taube, bonjour Michel Taube.
Bonjour, bonsoir à vous, cher Adil.
Bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de VRFM.
Qui sont très très nombreux, je vous le dis tout de suite. Éditorialiste, le directeur d'Opinion Internationale, je vous lance pour votre billet d'humeur comme chaque lundi. Allons-y.
Alors, écoutez, j'aurais bien voulu parler de Gérald Darmanin qui est en visite au Maroc pour saluer les relations qui étaient un peu refroidies entre le Maroc et la France. Mais permettez-moi de parler de la vie politique française avec Jordan Bardella, que de nombreux médias donnent déjà Premier ministre de la République au lendemain des élections européennes du 9 juin. Si Emmanuel Macron devait décider de dissoudre l'Assemblée nationale, eh ben je vais vous dire, tout le monde pense que si Bardella arrivait au pouvoir, il pourrait mettre en œuvre sa politique de préférence nationale et ses différents projets. Et il a notamment annoncé que dans les colonnes 3 du JDD, ce dimanche, que si il était demain Premier ministre, la première chose qu'il ferait, c'est un référendum sur l'immigration. Et ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, parce que quand bien même demain, au lendemain des élections européennes, s'il les gagnait largement, et si Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée nationale, eh ben le Premier ministre ne pourrait pas changer grand-chose, même s'il avait une majorité, parce qu'il y a un homme qui doit absolument donner son accord pour la convocation d'un référendum, c'est le président de la République. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Bardella n'est pas encore demain au pouvoir, et quand bien même il deviendrait Premier ministre par un effet de dissolution et de nouvelles élections, eh ben il n'aurait pas, et heureusement, encore les pleins pouvoirs. Pour dire les choses autrement, moi je me demande de plus en plus, en tant qu'éditorialiste, et voyant que beaucoup d'observateurs annoncent la prochaine élection de Marine Le Pen, ouais, en 2027, merci, pour que cela n'advienne pas, peut-être faudrait-il laisser Bardella prendre le pouvoir au niveau de Matignon pour qu'il soit en 2 ans, ouais, dans un échec complet de sa politique qui, merci, serait finalement, qui fermerait les portes de l'Élysée à Marine,
merci,
Le Pen.
Merci, mon, voilà, cher Michel Taube. Vous avez les salutations sur le plateau d'Emmanuel Dupuis qui vous salue chaleureusement. Alors, je sais pas, il y a un petit message perso, il dit il faut qu'il
me rappelle.
Allez, je te rappelle.
Michel Taube, je vous embrasse, à très bientôt lundi prochain. Merci Jimmy Dalidou. Merci à vous.
Bisous.
Ouais, on vous embrasse aussi. Merci Karim Alou.
Toujours un plaisir
partagé. Merci Manuel.
Toujours un plaisir.
Bah ouais.
De débattre.
Bien sûr, toujours. Et les auditeurs, nombreux ce soir.
C'est bien, c'est bien, il faut les écouter.
Grand merci aux auditeurs. Dylan Nenman, c'est 20h-21h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h. Demain, c'est Kim. Dès demain matin, merci à Solal à la réalisation. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on dit, vous savez ?
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Beurre FM, la rediff.
19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux et ça peut que nous réjouir. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission, chers amis auditeurs. Vous savez quoi ? Nous allons aller direction dans le 78, Mantes-la-Jolie, où nous allons nous adresser, vous savez quoi, à une polémique qui ne cesse d'enfler sur le tarif, figurez-vous, de la cantine pour une fillette qui a subi du harcèlement. On va en parler, qui a dû même d'ailleurs changer d'école. On en parlera direction Mantes-la-Jolie avec deux invités dans une polémique. Lina et Sonia qui seront avec nous. Ensuite, eh bien, voilà, du beau monde sur ce plateau. Katia Burrier, Gamal Abina, Bruno Pomard, Hassan Barek, tout ce beau monde, vous savez quoi, eh bien, se retrouve pour revenir sur le discours de Macron ce matin. Un peu plus d'une heure, je crois, on n'est pas loin de 2 heures de discours sur l'Europe. Alors, que retenir de ce discours ? Beaucoup parlent d'indifférence, beaucoup parlent d'un discours, évidemment, sans grand-chose, sans grande déclaration. Nous reviendrons sur ce discours. L'aide familiale qui commence à scandaliser, vous savez quoi, les chibanis. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, figurez-vous qu'une loi a été votée un peu en express, puisque désormais, il va falloir séjourner non plus, entendez bien, on en parlera tout à l'heure, 9 mois jusqu'ici sur 12. Eh bien, on passe à 6 pour en bénéficier. Oui, écoutez bien, si désormais vous avez décidé de partir au Maghreb ou en Afrique noire, ben, sachez qu'il va falloir, pour pas que ça saute, on en parlera tout à l'heure. Les présidentielles, sondage exclusif, oui, pour toute une série de personnalités, il y a Marine Le Pen, Édouard Philippe, Bruno Attal, bref, Le Pen l'emporterait contre tout ce beau monde. Gabriel Attal, j'ai dit quoi, Bruno ? Ouais, non, c'est pas la même personnalité. Plutôt Gabriel Attal. Ouais. Je sens que c'est la fatigue qui me gagne. Hein. Heureusement qu'il y a la série de ponts qui arrive. Hein. Et donc, hein. Les auditeurs ont la parole 0153483000. Ouais, vous le savez. Vous nous appelez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est à la fois avec Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et Lina, bonsoir Lina.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous tous, ici même, en direct. Vous êtes dans le 78. Dans le 78, justement, on va revenir longuement sur cette affaire qui a suscité notamment une pétition. Hein, mais on va en parler. Ça se passe à Mantes-la-Jolie. Alors, qui veut prendre la parole des deux, Sonia ou Lina, concernant cette mère de famille des Yvelines à Mantes-la-Jolie, qui a scolarisé donc sa fille, qui aurait été harcelée pour la mettre dans un établissement d'une commune voisine. Alors racontez-nous, parce que moi j'ai besoin de comprendre ce casse-tête pour cette fille qui a dû changer d'école en cours d'année pour des soupçons ou tout simplement du harcèlement scolaire. Qui veut prendre la parole, Lina ou Sonia?
Alors, je commence.
Qui c'est Lina ou Sonia?
C'est Lina. Lina.
Oui. Lina, pardon. Lina, je vous écoute.
Alors, je suis membre associatif. La maman nous a contacté suite à l'harcèlement de sa fille qui a débuté très rapidement dans l'école qui avait été à Buchelet. Donc, les faits ont été avérés aussi bien par la directrice de l'école, par le maire de Buchelet. On a été reçu très rapidement par l'inspectrice académique qui se trouve à Rosny-sur-Seine, qui a décidé de mettre en place très rapidement le protocole phare. Donc le protocole phare, vous savez, c'est ce qui est dédié aux enfants harcelés. Donc ils envoient des équipes sur l'école en question pour discuter avec les enfants sur le harcèlement, oui. Pour mettre... voilà. Oui. Donc...
Elle a quel âge, la fille?
10 ans.
10 ans.
C'est pas
au moment des faits, 9 ans. Ah,
c'est Sonia qui parle. Sonia.
Ouais, voilà.
Sonia.
Au moment des faits, elle a 9 ans.
Oui.
Et actuellement, elle a 10 ans.
Elle a 10 ans. Elle est toujours scolarisée dans la même école ou vous l'avez changée?
Non, bah, je vais comprendre Lina.
Justement, le protocole phare, c'est un protocole très bien, mais comme tout protocole, il y a des inconvénients, c'est qu'il met énormément de temps à se mettre en place, et la maman ne voulait pas, pour la sérénité et le bien-être de son enfant, ne voulait pas attendre la lenteur administrative qui aurait pris peut-être quelques mois, parce que sa fille souffrait. La fille, puisque la maman est à l'écoute de son enfant, a exprimé son souhait de changer d'école. Donc, nous avons à nouveau rencontré le maire de Buchelet, l'inspectrice et la directrice qui ont été unanimes sur cette décision en disant que oui, en effet, c'est le bien-être de l'enfant qui prévaut et que si l'enfant veut changer d'école, toutes les autorisations pour les dérogations seront délivrées.
Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce que vous dénoncez dans cet acharnement? Qu'est-ce qui s'est passé justement auprès de cette fille âgée aujourd'hui de 10 ans? Elle a subi quoi? Des crachats, des insultes? M'a-t-on rapporté des propos racistes? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Alors oui, ça a commencé, vous savez, au début, c'est la petite nouvelle dans l'école, donc on commence par des petits mots pas gentils, on va dire ça comme ça, on va pas les répéter en direct. Ensuite, il y a eu des agressions verbales de plus en plus fortes, comme vous dites, à connotation raciste, et c'est parti en crescendo, parce qu'il y a eu l'effet boule de neige, hein, vous savez, les enfants, très vite... voilà, ils se sont regroupés contre contre cette jeune fille. Et il y a eu aussi des agressions physiques, où on lui tirait les cheveux, on lui fait des croche-pieds. Cet enfant, bon, la directrice, et au passage, je remercie vraiment le maire de Buchelet qui a été très réactif, très très réactif, et n'a pas laissé la situation justement s'empirer. Et c'est pour ça que très vite, il a accepté la dérogation de la jeune fille sur une autre école, dans une autre ville.
Alors justement, Sonia est avec nous. Sonia, vous êtes la maman. Dites-moi, Sonia, votre fille aujourd'hui, dans quel état elle se trouve lorsque vous échangez avec elle? Est-ce qu'elle, vous avez le sentiment qu'elle est traumatisée? Comment ça se passe pour elle aujourd'hui?
Alors, en toute honnêteté, au tout début, ça n'allait pas du tout. Ma fille, elle a tenu des propos que je n'avais jamais entendus de ma fille, comme le suicide, par exemple. Donc, c'est là où j'ai tout de suite dit qu'il fallait stopper. Voilà, parce que ça reste un enfant de 9 ans. Elle ne comprenait pas. Moi, en tant que la maman, le papa, on est des personnes qui avons du caractère. Ma fille, pas du tout. C'est quelqu'un de très gentil, de très sensible. Donc j'ai la chance qu'elle parle, parce que j'ai très bien conscience qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui subissent et qui ne parlent pas. Moi j'ai eu la chance que ma fille me parle. Donc elle m'a parlé, j'ai essayé de faire le nécessaire, mais ensuite, comme l'a très bien dit là, ma fille
Vous dites dans une déclaration qu'elle a pris cher, votre fille. Qu'est-ce que vous entendez par prendre cher?
Bah moi je vais vous dire les mots qu'elle a subis. Désolée si ça choque, ma fille est métisse. Je suis blanche, le papa est noir, donc ma fille est métisse. On lui a dit qu'elle était sale, qu'elle s'était noyée dans la boue, qu'il fallait qu'elle se suicide parce qu'elle avait un teint dégueulasse. On lui a dit qu'elle était sale. Et après, de plus en plus, c'était un peu plus dur. Et puis ensuite, les violences physiques.